Radio Campus Bruxelles 92.1.
Bonsoir à tous et bienvenue dans la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue en ce mercredi. Il est 19h si vous nous rejoignez, ou peut-être en rediffusion le jeudi à 13h30, juste après votre midi express. On passe en revue l'actualité des scènes à Bruxelles. Et cette semaine, petit arrêt du côté du Théâtre des Martyrs pour voir ce que Dominique Seron a fait pour nous offrir un joli CID. On en parlera avec Elisabeth tout à l'heure. Les fêtes de fin d'année approchent, donc on parle évidemment de fêtes, de rire, de comédie pour agrémenter cette fin d'année. Et ce sera le parc qui nous offre la dame de chez Maxime. On ira voir un petit peu ce qui a été fait là-bas. Ça a été mis en scène par Myriam Youssef. Tennessee Williams est quant à lui du côté du Théâtre Océan Nord avec une pièce inédite en français, nous dit-on. Eh bien, on ira voir aussi un petit peu ce qu'on en pense. Et quelques annonces denses pour clore cette émission. Et bien tout de suite, je vous propose d'aller retrouver Elisabeth, dont on a recueilli les impressions à sa sortie de la représentation du CID au Théâtre des Martyrs.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour, bonjour.
Tu es allée voir pour nous, du côté du Théâtre des Martyrs, le CID classique de Corneille.
C'est un classique de Corneille. Alors, je pense qu'il faut tout d'abord remercier l'Infini Théâtre et Dominique Seron de nous permettre d'entendre ce texte et de goûter à ce texte, parce qu'effectivement, c'est un grand classique, mais c'est aussi un grand classique que personne n'a vu, entendu. En tout cas, on ne l'a plus monté depuis très longtemps. Il faut rappeler que c'est une pièce de 1637, si j'ai bien dit, dans ces années-là. Donc voilà, c'est une histoire toute simple comme on en connaît, mais quoique, parce que c'est pas tellement une histoire blanc et noir du genre les Capulet, les Montagu qui s'entretuent. Non, non, ça c'est plutôt une logique shakespearienne. Là, on est dans quelque chose de déjà plus subtil, et à travers les 5 actes de cette pièce, en fait, il est question de d'un dilemme qui frappe Chimène, un dilemme qui frappe Rodrigue, un dilemme qui frappe l'infante. Et chaque fois, il faut choisir entre le cœur et la raison, le cœur ou la raison, le devoir d'obéissance, le devoir d'honneur, toutes les choses qu'on doit faire, ou simplement l'inclinaison de son cœur. Mmh. Et donc, on a ce drame qui se passe là sous nos yeux. Et voilà, on rentre à la suite de ces trois personnages.
C'est traversé de dilemmes, donc, dans ces trois personnages. Corneille parlait même quasi de tragicomédie ou de drame, hein, comme oui. Tu viens de le dire. On est vraiment balancé entre les deux sentiments à chaque fois.
On est balancé entre les deux sentiments. Je dirais qu'on se nuance. C'est vraiment une dialectique qui se met en œuvre. Maintenant, je pense qu'effectivement, on ne peut pas parler de tragédie franche parce que finalement, tout le monde ne meurt pas. Là, encore une fois, on est plutôt du côté de Shakespeare où c'est plus radical. Il y en a plein de cadavres sur le plateau. Bah, là, il n'y en a qu'un seul qui meurt, mais il faut bien déclencher l'intrigue aussi et donner le premier défi, le premier dilemme à Rodrigue, puisque est-ce qu'il doit venger son père et tuer le père de sa copine? Entre les deux, son cœur ne balance pas, puisqu'il a finalement décidé de venger son père et effectivement tuer le père de sa copine, ce qui enclenche évidemment une réaction en chaîne, la copine devant bien entendu venger son propre père, etc. Et donc on passe à côté d'une magnifique histoire d'amour, mais bon, à la fin, ça finit quand même bien. Quoi.
Ah, tu nous promets ça. Et Dominique Seron, qu'est-ce qu'elle nous promet dans sa mise en scène?
Alors, dans sa mise en scène, en fait, il y a une espèce de mise en abîme un peu étrange du texte, parce que on est clairement dans une salle de répétition, il y a des fauteuils de théâtre sur la scène, il y a les à côté, enfin, classiques, coulisses, des fruits, etc. On a tous les comédiens qui sont ensemble, donc le théâtre montre ces codes-là, on a, voilà, est-ce qu'on répète le site ou est-ce qu'on joue? Finalement, ça n'a pas tellement d'importance, c'est pas trop exploité non plus, ça revient à un moment donné, ben, y en a un qui oublie son texte, quelqu'un d'autre qui le souffle, mais ça reste assez anecdotique. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette mise en abîme? J'ai pas trop compris. Est-ce que si on pouvait pas simplement être directement dans l'action, être avec les personnages, être avec les comédiens? À mon sens, on aurait très bien pu. Faut préciser aussi que c'est quand même une pièce en cinq actes, c'est une pièce en alexandrin, donc c'est vrai que les 20 premières minutes, ou en tout cas tout l'acte d'exposition m'a semblé un petit peu patiné, c'était un peu difficile parfois de s'y repérer qui est qui, mm-hmm. Et puis bon, après on se laisse prendre malgré tout dans l'intrigue et dans ce dilemme qu'on peut ramener à soi, hein. C'est ça qui est intéressant dans cette tragédie finalement. On peut se dire, est-ce qu'on a des choses, des obligations, des choses à faire, ou est-ce qu'on suit son inclinaison?
Côté distribution, on retrouve Franz Bastoun, Patrick Bruhl, Laurent Capelluto dans les premiers rôles. S'en sort-il?
En fait, il y a une alternance de 11 comédiens et une alternance de 11 comédiens avec lui sur le plateau. Donc moi, je n'ai pas vu Laurent Capelluto. J'ai presque envie de dire à mon grand regret, parce que peut-être... on aurait pu avoir un petit peu plus de punch ou quelque chose d'un peu plus flamboyant du côté du Rodrigue que j'ai vu. Mais donc, il y a ce principe de distribution alternée. C'est aussi un travail de groupe. Hein. On est quand même dans des scènes qui sont groupées. Une des particularités du spectacle, c'est qu'il y a des intermèdes qui nous sont offerts et qui font du bien, effectivement. C'est la pratique de l'alexandrin, il faut bien dire qu'on n'écoute pas ça tous les jours. Oui. Et donc, il y a des intermèdes et musicaux et dansés qui
nous permettent de méditer, de digérer le texte.
Je ne vais pas jusque-là parce qu'il y a un certain rythme quand même dans le spectacle, etc. Il faut souligner aussi que moi, j'étais dans une salle où il y avait énormément de classes et qu'il y avait quand même un beau silence.
Ah oui.
Donc, ça veut dire que ça passe et que Corneille nous parle encore. Quand même.
Et c'est tellement mieux d'aller voir ces classiques sur scène plutôt que de les lire simplement sur le sur papier, comme ça.
À la version de Wikipédia, il y a quand même un vrai plaisir à cette langue française aussi, avec la particularité aussi, c'est vrai qu'on a des comédiens pour qui c'est un exercice difficile et que le phrasé, la versification, elle est un peu différente selon les comédiens, ou est-ce que c'était des indications de direction d'acteur?
En tout cas, on en conclura un travail collectif pour ceci, dont on sent vraiment que c'est...
Un souci de donner du rythme, peut-être qu'il manquait une petite pointe d'urgence, une petite pointe de... Mais oui, là, c'est vraiment un dilemme que je vis, une petite pointe de quelque chose de viscéral comme ça. Je pense que moi, j'ai passé une bonne soirée. Je suis contente, en tout cas, d'avoir goûté à ce texte. Je le trouve intéressant et encore, surtout par son côté qui n'est pas blanc et noir. Il y a toujours comme ça une mitigation qui est possible.
Le site de Corneille, mis en scène par Dominique Seron, c'est à voir au Théâtre des Martyrs jusqu'au 7 décembre, www.theatredesmartyrs.be. On parlait beaucoup de rythme, eh bien on ne va pas le quitter, avec Fedeau qui s'installe du côté du Théâtre du Parc, le Parc qui nous offre son spectacle de fin d'année. Jusqu'au 31 décembre, vous pourrez voir La Dame de chez Maxime. Alors c'est un peu, comme dit Myriam Youssef, la metteur en scène, c'est le soulier de satin de la comédie du vaudeville. En tout cas, trois actes, c'est une des plus longues pièces d'ailleurs de Fedeau et l'un de ses plus gros succès comiques. Alors, on peut s'attendre à quoi? Eh bien, à un respect en tout cas de la dramaturgie, des trois actes et un travail, tout d'abord peut-être parler des décors et notamment dans le premier acte et le troisième acte qui se déroulent dans cette chambre du docteur Petitpont. Le docteur Petitpont qui se réveille d'une nuit de noces assez chargée, une nuit de fête avec ses camarades et dans son lit, il ne retrouve pas sa femme, mais bien la môme Crevette, chanteuse et danseuse du Moulin Rouge, qui vient un petit peu secouer son quotidien, et notamment son quotidien d'homme marié avec une femme un peu bigote qu'il retrouve chez lui, mais il cache évidemment l'existence de cette môme Crevette à sa femme pendant toute la pièce. Alors s'en suivra évidemment tout un quiproquo, même une succession de quiproquos. On va penser que la môme Crevette, c'est la femme du docteur Petitpont, eh bien non, et etc., etc., avec toute une douce folie et un beau rythme qui est insufflé par la distribution choisie par Myriam Youssef. on retrouve ses habitués, Anne-Pascale Clérambourg, en parfaite, en bigote collée montée, évidemment.
Bien sûr, on imagine tout à fait avec sa longue silhouette efflanquée.
Et sa robe aussi qui suit et qui n'en fait qu'un long I comme ça. Et elle est vraiment parfaite. Et vraiment, ce qui est important, hein, tu l'admettras avec moi, Fedo, c'est le rythme.
Hein. C'est la mécanique, c'est le rythme, c'est ce plaisir aussi de finalement être toujours à suivre et à pas pouvoir se reposer. Et là, c'est ce plaisir unique. Est-ce qu'on rit beaucoup?
Ah oui, ça c'est étonnant. Et grâce notamment à Julie Duroisin qui incarne la môme crevette. Alors on la connaît par son travail avec Dominique Breda dans les comédies. On l'avait déjà repéré comme un des grands talents comiques de la scène, des scènes belges. On la retrouve ici en Titi parisienne avec une pointe d'accent bruxellois. Elle est absolument parfaite. Et alors je parlais des décors. Eh bien cette chambre, elle prend des proportions un petit peu aléatoires, comme ça. On a l'impression d'être dans un dessin animé, puisque les murs ne sont pas droits, les portes ne le sont pas non plus. Et Myriam Youssef adore utiliser les trappes, c'est-à-dire que quand elle avait fait le lieu commun à l'atelier 210 il y a quelques saisons, on voyait ces personnages sortir d'un petit peu partout dans le décor. Et bien, dans le troisième acte ici, c'est ce qui est utilisé également, et c'est ce qui imprime aussi le rythme.
C'est les trappes qui s'ouvrent.
Il y a des portes hein, aussi. Donc voilà, il y aura, on soulignera aussi dans la distribution Stéphane Fenocchi, Nicolas Ossoski, habitué. Et on soulignera donc pour le décor et la scénographie Thibaut de Coster et Charlie Kleinerman. Allez donc, c'est pas mon père, c'est le refrain un peu de cette pièce qu'on pourra voir donc jusqu'au 31 décembre du côté du Théâtre du Parc.
Clairement dans quelque chose de festif, là.
Oh oui, c'est parfait pour les fêtes de fin d'année. Parfait. D'ailleurs, il y aura une soirée pour le réveillon prévu du côté du parc.
Donc, un coup de cœur, alors.
Un coup de cœur, oui, avec une belle distribution. Alors, une seule représentation, c'est pour Les Amis de Carole.
C'est Les Amis de Carole, ce qui est aussi une comédie bien servie avec Catherine de Crolier, Laurence Warin, Thibault Neuve, Christian Davinier et Sophie Schneider. C'est une histoire toute simple, écrite par Christian Maligné. C'est quelque chose qui aurait pu nous arriver. C'est une comédie, mais ça grince un peu. Enfin voilà, c'est une bonne comédie, une représentation unique ce 30 novembre au Théâtre Saint-Michel, dans la Grande Salle.
L'histoire d'amis qui se retrouvent et qui vont dévoiler leurs secrets un petit peu. Ça va être un petit peu le grand déballage lors d'une soirée d'été, d'un barbecue.
Connaît-on finalement ses amis? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Ça, c'est des grandes questions, mais c'est une comédie bien enlevée parce qu'on part d'un point de départ et on arrive ailleurs, les personnages changent, on a quelques scènes d'anthologie là-dedans. Il y a une colère de Thibault Neuve notamment qui va piquer des hannetons. Enfin, il y a quelques petites choses. Catherine de Crolier qu'on a vu beaucoup, avec Breda qui est magnifique là dans une sorte d'ingénue comme ça. Voilà. Et puis Laurence Warin qui amène une autre tonalité féminine sur ce plateau.
C'est ça, dans l'indépendance féminine, on peut dire un petit peu plus comme ça. C'est au Théâtre Saint-Michel.
C'est au Théâtre Saint-Michel, c'est une représentation unique, c'est ce 30, voilà, je me trompe. Voilà. L'aide d'être ce samedi.
Merci Elisabeth, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bonne semaine.
Et nous on se quitte en s'écoutant un extrait de l'album de Conan Mocassin, Caramel, Do I Make You Feel Shy.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches. Bonjour Nurten.
Hello, hello.
Salut et merci de venir nous parler avec nous de cette pièce qui s'installe du côté de l'Océan Nord jusqu'à ce samedi. Il s'agit d'un inédit de Tennessee Williams, un inédit en français. La pièce a deux personnages. Alors, qui s'en empare? C'est Sarah Siré, metteur en scène peu connu chez nous, mais qui arrive notamment dans la valise, on va dire, de la nouvelle classe du cours Florent qui s'est installée en cette début d'année à Bruxelles. Et elle est vraiment tombée amoureuse de cette pièce. Alors la pièce a deux personnages, ça comporte un petit peu tout dans le titre. C'est un frère et une sœur un petit peu perdus, on va le dire comme ça, qui se retrouvent dans une ville perdue au cours d'une tournée de théâtre qu'ils sont en train de faire, mais qui vraiment prend l'eau puisque personne ne vient les voir, l'équipe les abandonne. Et pourquoi? Eh bien parce que tous les deux, en tout cas et surtout la sœur, sombrent dans une sorte de folie
où réalité et fiction se confondent, et toute cette pièce en sera vraiment balancée en ne sachant pas vraiment est-ce qu'on est dans la pièce ou est-ce qu'on est dans la réalité de cette relation entre frères et sœurs qui partagent un drôle de passé et notamment une drôle d'histoire avec leurs parents, un drame familial qui les réunit, et on est un petit peu perdu dans cette histoire. Le décor est vraiment comme un désert américain ou vraiment de sud de l'Italie. Hein. On est toujours entre soit le sud américain, soit le sud européen, balancé entre les deux. Et ils vont errer dans ce décor comme on erre un petit peu dans le désert. C'est la folie qui marque vraiment cette pièce Nurten. Hein.
Mais c'est ce qui se fait entre les lignes et qui doit s'amener peu à peu. Hein. Donc c'est une valse, hein. C'est
oui.
Une valse de sentiments. Moi, ce que j'ai trouvé pour moi en tout cas intéressant, c'est cette peur face au monde extérieur.
Oui.
Donc, est-ce qu'ils ont dégommé leurs parents? On ne sait pas. Est-ce qu'ils commencent à crever de faim parce qu'on a l'impression qu'ils sont terrés dans leur maison? D'ailleurs, ils font 2-3 tentatives de sortie à l'extérieur, mais d'une terreur monstre.
Tu vois,
ouvrir une porte et sortir sœurs et frères main dans la main. Ces scènes-là sont très sous haute tension. C'est un espace vide, mais on sent bien tout le village autour. Et donc, voilà. Cette tension-là est intéressante. Moi, je trouve que la pièce dans la pièce, c'est un peu lourd. Moi, je me disais qu'il y avait un peu trop. C'est clair, la scénographie est minimale. Tu vois, il y a il y a un téléphone, il y a un rideau transparent.
Une piscine vide.
Temps, voilà. L'idée qu'on est perdu entre la pièce en train de se nouer et leur histoire à deux, parce que la fille, elle prend en otage la pièce. Elle lui dit, voilà, je vais te faire des improvisations. Et ils sont en train de régler leur compte. Voilà, est-ce qu'on est en entendant Godot où il n'y a finalement pas de personnage dans la salle? Tout ça est très flou en zone d'ombre, et tant mieux, parce qu'on voit la mécanique, la valse des deux. Ce qui est intéressant, c'est que le dramaturge parlait dans le travail des corps sur le mimétisme, sur le magnétisme, pardon, entre le frère et la sœur. Ça, c'est intéressant, ça devient alors quasi chorégraphique. Moi, j'ai eu du mal, franchement, parce que l'histoire de frère et sœur, j'ai un tellement bon souvenir avec Terre morte de Franck-Xavier Creutz, où ces deux provinciaux qui débarquent à la ville, deux paysans qui se sauvent, hein, frère et sœur de la ville, et qui vont à la ville, et en fait, ils refont tout leur village dans leur appartement. Et ils se perdent là aussi. Donc, cet enfermement dans leur monde et physique et mental, j'avais un tellement fort souvenir de ça que, bon, ici, j'étais un peu détachée.
La difficulté aussi, c'est le jeu sur la folie. Alors, le duo de comédiens ici, Mathilde Fèvre et Simon Dupré, essayent un corps à corps, se détachent, se reprend. C'est parfois très... très très au premier degré comme ça. Hein.
Le jeu était complètement au premier degré. Donc voilà, j'ouvre, je gueule, bon ben j'ouvre, je gueule, quoi. Tu vois, donc c'est un peu c'est pas plat parce qu'il se débrouille très bien, mine de rien. Parce que
il faut tenir quand même à cette pièce.
Labyrinthique, donc dans leur physique et tout, mais à un moment donné, bon, c'était un vendredi soir, allez savoir, mais il y avait trop de décibels, il y avait un peu trop de tout. Et le fait que ce soit l'emballage du théâtre dans le théâtre. Finalement, on rentre, ça nous met une distance, tu vois. Donc, on n'est pas dans le côté un peu malsain de frères et sœurs avec ce drame qui est là ou pas. On n'en ressort pas sur la nature humaine, en tout cas, quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que la pièce, dans la pièce, vient toujours nous mettre une distance. Et en plus, comme on est dans un jeu d'hystérie, parfois on rit. Voilà. Et puis après, il y a la théâtralité qui, ici, même si elle est très sobre, il y a un peu de trop. Je trouve qu'elle aurait dû être complètement radicale sur une ligne claire. Il faut dire aussi que je venais avec des attentes. Je pensais que ça allait être quelque chose de très plasticien parce que Fabien, le dramaturge, a un parcours comme ça. Donc, je ne sais pas, allez savoir. Je m'attendais à d'autres attentes. Mais en même temps, Nico, on l'a vu ensemble, ça se regarde.
Oui, ça se regarde parce qu'on est vraiment emporté dans ce labyrinthe. Moi, à chaque fois, je me dis, est-ce qu'on est dans la pièce? Est-ce qu'on est dans leur vraie histoire? C'est vraiment ça qui tient peut-être.
Il faut se laisser glisser.
Il faut se laisser glisser dans cette
douce chaleur aussi, on sent qu'il fait chaud, en tout cas à l'extérieur, et ils le disent. Juste pour la petite histoire, sachez aussi que si Tennessee Williams a écrit cette pièce, c'est une pièce qu'il a écrite plus tardivement que ses autres œuvres, c'était en hommage à sa sœur qui avait été lobotomisée dans les années 40 et qui passa sa vie en institution, d'où ce rapport à la folie assez compliqué. Voilà donc pour la pièce.
Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que le frère, à un moment donné, au début, on a l'impression que c'est la fille qui est folle, et puis après, le frère.
Mais le frère entre complètement dedans, oui, c'est pour ça qu'on hésite vraiment et que le labyrinthe s'enfonce de plus en plus. Voilà, c'est à découvrir, en tout cas, du côté du Théâtre Océan Or jusqu'à ce 30 novembre, une mise en scène de Sarah Siret pour cette pièce de Tennessee Williams. La pièce à deux personnages au Théâtre Océan Or, www.océanor.org. Les annonces de cette semaine, on prend tout d'abord direction de la Biennale Charleroi dedans, si tu veux bien, Nurten, avec trois créations, représentations à Bruxelles, avec tout d'abord la nouvelle création de la compagnie Mossoubonté, Histoire de l'imposture, ça se passe du côté du Théâtre Varia, toujours dans le carré,
Donc j'ai failli le voir hier et puis finalement ça n'a pas été dans mon agenda. J'irai le voir d'office cette semaine. Histoire de l'imposture. Alors Mossoubonté travaille fort sur l'étrangeté des normes, on va dire, sociales ou de la nature humaine. Ici c'est sur les postures artificielles. Donc c'est de la danse théâtre, toujours très pictural, très beau. C'est par exemple eux qui mettent en danse des tableaux du Caravage, donc dans leurs anciens spectacles. Et ici c'est une déambulation sur les postures artificielles qu'on peut prendre aujourd'hui dans la société, enfin dans le monde actuel. Donc voilà, c'est un paquet de poésie et de mouvements dansés. Il ne faut pas s'attendre à un discours politique bien souligné en dessous. On est dans la réalité décalée chez Mossoubonté.
C'est à voir jusqu'à ce samedi, donc, au Théâtre Varia. Toujours dans la Biennale Charleroi Danse, Dan Smith de Cynthia Loumet et Marc Lorimer.
Oui, alors Cynthia Loumet, c'est la grande brune de chez Anne-Thérèse de Kersmacher. Enfin, c'est la danseuse lead, on va dire, que tout le monde remarque, tellement qu'elle est sublime. Quoi. Donc voilà, ici, c'est son deuxième spectacle où elle a commencé un peu à voler de ses propres ailes. C'était tout intimate à la dernière biennale. Et alors, ce qui est intéressant chez elle, c'est que elle l'avoue, elle dit, oui, je viens d'Anne Teresa, donc forcément, ça doit se voir dans ma chorégraphie. Quoi. Donc, même si on lui dit c'est une danseuse d'Anne Teresa, elle cherche pas à s'en détacher et elle le prend pas mal. Donc moi je trouve ça intéressant. Ici elle fait donc toujours un duo avec Marc Lorimer et c'est à la raffinerie de Charleroi donc. Ils ont une extension ici à Bruxelles et apparemment ce serait une danse sur le déploiement et le repli. Donc on est dans la danse contemporaine abstraite, un peu à la ATDK. Voilà, même si un jour il faudra arrêter de la coller à ATDK et lui laisser souffler dans ses propres spectacles.
C'est à voir le 28 et 29 du côté de la raffinerie. Donc le Kai Theater lui accueille Étienne Guillotot pour Synopsis of a Battle.
Voilà, alors ça on verra, c'est aussi un duo. Et alors c'est sur une musique d'Éric Satie, des écrits de Socrate. Et alors ce qui est intéressant, c'est Étienne Guillotot et Claire Croisé, excusez-moi, c'est encore une danseuse, je crois, formée chez Parc, ATDK. Et alors, elle nous avait fait un très beau spectacle remarqué au Brigittine, il y a quelques années, une danse abstraite, une danse contemporaine, mais elle avait son premier coup l'avait déjà marqué face au public d'averti de danse contemporaine. Donc ici, c'est intéressant de les voir en duo. Donc c'est le 29 et le 30 au CAI.
Au CAI. Et pour toutes les informations pour Charleroi Danse, charleroi-danse au pluriel.be. La Balsamine accueille aussi de la danse d'un collectif, le Garage 29. On l'avait déjà rencontré sur la scène bruxelloise, ce garage.
Oui, donc là, on va dans la partie des allumés. Alors, le Garage 29, c'est intéressant parce que, donc, elle est danseuse, lui est circassien et danseur. C'est un couple à la vie comme à la scène. Et c'est un couple, comme il se passe beaucoup, comme il se passe de plus en plus à Bruxelles, qui revient à des... ils font de leur maison un studio de danse et donc un studio de représentation. Il faut savoir qu'à Bruxelles, c'est la galère pour le danseur de trouver un studio pas cher et tout ce qu'on veut. Eux ont repris un appartement, donc le Garage 29. En dessous, c'est la scène où ils font des workshops, des représentations pas très chères, je trouve, encore. Et au-dessus, ils vivent, alors on les avait vus avec Catherine, c'est vraiment une mezzanine, hein, c'est un petit flat. Hein. Il y a un chat, il y a une table, il y a un coin de cuisine et basta. Hein.
Oui, on est invité chez eux, vraiment.
Temps,
ouais.
Combien de temps ils vont venir ? Parce que quand on bat, ça répète. Mm-hmm. Eux vivent en haut, quoi. Hein. Mm-hmm. Donc voilà, c'est leur passion. Et alors, comme ils sont des danseurs et tout, ils me disaient, ça leur permet d'avoir un carnet d'adresses et des contacts. Les gens qui viennent donner des workshops, comme David Zambrano ou ce genre de personnes, il y a un des comédiens de Rodrigo Garcia qui est un habitué. Voilà, on va là dans l'engagement, quoi. On va pas là pour du fric. Quoi.
Oui.
Et donc chaque année ou tous les deux ans, je ne sais plus, ils font un festival de danse off. Ils commencent à avoir une bonne réputation. Wim van de Caybus les aide, les Halles de Skarbek aussi, tu vois, pour des tapis, des lumières, ce genre de choses. Donc la qualité y est, la passion y est. J'espère qu'ils tiendront encore longtemps parce qu'ils portent ça rien qu'à deux, ça doit être assez fatigant. Donc c'est intéressant que Alzamine leur donne une carte blanche dans leur lieu.
Cirque, danse, musique. Cirque, danse, musique, c'est leur matière de prédilection. Ils les mélangent, alors, si je comprends bien, dans leur performance.
Ici, on verra. Moi, chaque fois que j'ai été au Garage 29, c'était pour voir leurs propositions des autres. Donc, les gens font un workshop et puis ils montrent le succès, ils montrent la pièce aux autres. Ce n'est pas un endroit où on a clé sous porte, un bon spectacle, où nous, on est dans la recherche. Donc, on va dans l'intimité du travail de résidence. On va dire.
En tout cas, ici, nous proposerons de la création en danse adulte, de la création en danse jeune public également, on verra ce que ça veut dire, et un black dinner and a sweet dark concert, donc musique et danse au programme de ces performances.
Matière du noir plastique, donc c'est une déclinaison du noir plastique issu du sac poubelle, donc l'inspiration première est le sac poubelle.
On verra ce que ça donne. Ouais. C'est ces 29 et 30 novembre du côté de la Balsamine, www.balsamine.be. Et très vite, avant de se quitter, un contrôle d'identité nous attend à l'Espace MAG, un festival de jeunes créations qui s'inscrit, je crois, dans ces commémorations, en tout cas ces festivités autour des 50 ans d'immigration.
Oui, donc Espace MAG, 50 ans d'immigration, et alors, c'est la jeune création, je ne sais pas si c'est maghrébine ou pas, c'est, en tout cas c'est très mix, hein. Donc voilà, ça commence par contrôle d'identité, il y a Smet Louis, il y a Ne me demande pas mon nom, c'est le slam de Younes Mernissi, qui a fait de la poésie mais extraordinaire, c'est un gars qui est sorti de journalisme de l'ULB, donc petit clin d'œil à l'ULB, et alors Hello veut dire de Tarek El Bacha, enfin, c'est des spectacles, on va voir comment la jeune création s'approprie la modernité théâtrale, ça a l'air très intéressant. J'essaierai moi d'aller faire un tour en tout cas à l'Espace MAG.
Il
y a une bonne programmation mais qui ne se fait pas assez entendre.
Voilà, mais on va essayer en tout cas de relayer ça au mieux. www.espacemag.be. Merci Nurten.
Est-ce que j'ai un mot pour mon Ivo Dinchev au Kai Théâtre?
Très vite, 30 secondes.
Alors le performeur Ivo Dinchev au Kai Théâtre qui fait de la poésie est assez participatif. Allez voir le Pi Project, Pi comme Pussy Project. Alors, il peut être nu sur scène et il peut même demander aux spectateurs de s'embrasser sur scène. Et je vous assure, il file un billet d'euros pour ceux qui viennent s'embrasser sur scène. C'est hilarant.
Ah, ben on ira voir ça du côté du Kai Théâtre, www.kaitheater.be. Merci Nurten, cette fois c'est bon. À la semaine prochaine. Et c'est ici que se termine la conspiration des planches. Merci d'avoir été avec nous. Le podcast de cette émission sur demandelprogramme.be en cette fin de semaine. Bonne planche à vous, à très bientôt.
La conspiration. Constelación.